RCF. Parents en question, présenté par Valérie Gendreau.
Un enfant quand je veux. Bonjour et bienvenue à Parents en question. Ce sera le thème de notre émission d'aujourd'hui. Si la maîtrise de la contraception a donné une grande liberté quant à la procréation, peut-on à l'inverse avoir un enfant quand on veut? Qu'est-ce qui motive ou non ce désir d'enfant? Et si l'enfant tarde à venir, quelle conduite tenir? Y aurait-il des raisons inconscientes? Tout autant de questions que nous allons pouvoir traiter avec nos invités Anne et Véronique. Anne Gabart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin gynécologue depuis 36 ans. Vous avez un master en histoire des sciences et actuellement vous rédigez une thèse sur la philosophie de la médecine avec comme question centrale « Nos maladies ont-elles un sens ou bien sont-elles le fruit du hasard ?» En l'occurrence, y a-t-il un lien possible, un parallèle entre vie et fertilité ? Véronique, bonjour.
Bonjour.
Véronique Bellec, vous êtes médecin généticien, spécialisé en reproduction et médecine fœtale. Et vous, riche de votre expérience, vous avez choisi d'accompagner les couples en projet ou en difficulté de procréation.
Tout à fait.
Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Peut-être pour commencer, on va partir sur la contraception. Avant de mettre un enfant en route, il y a souvent eu une contraception assez longue. Une contraception, est-ce que c'est si anodin ? Est-ce que ne pas vouloir d'enfant quand on n'en veut pas, ce qui donne une impression de liberté, ça peut avoir un impact sur le corps ou peut-être le psychisme ? Anne ?
Oui, alors peut-être la question est cette liberté que ça nous donne nous permet souvent de différer la grossesse et donc de faire que les femmes, au lieu d'avoir un enfant quand elles ont 20 ans, où leur fécondité est maximum, elles vont reculer l'âge et par le fait, la fécondité va diminuer. Donc, c'est pas la pilule ou une autre contraception qui diminue la fécondité, c'est le fait que la fécondité sera retardée et qu'elle sera diminuée.
Donc, c'est surtout l'âge.
C'est surtout l'âge. Mmh. L'âge et puis donc la motivation, parce que si on prend une contraception, c'est qu'on pense qu'un enfant n'est pas une priorité à ce moment-là. Et donc, on diffère sa motivation. Quoi.
Et la motivation peut baisser avec les priorités ?
Alors, elle peut baisser. Peut-être la motivation ne baisse pas, mais si on prend la pilule, c'est que notre motivation passe en second plan. Enfin, la motivation d'un enfant. C'est-à-dire qu'on pense d'abord avoir une carrière, avoir une maison et l'enfant viendra qu'après, donc l'enfant n'est pas la première motivation.
Et lorsqu'il la devient ?
Et lorsqu'il la devient, peut-être il peut être trop tard. Véronique a peut-être quelque chose à ajouter sur
oui, Véronique.
L'âge.
C'est vrai que je pense que c'est important de rappeler quelques notions de base sur le délai de mise en route d'une grossesse, qui sont ce délai étant totalement naturel et a un impact sur chacun des couples en fonction de l'âge de la femme. On dit habituellement qu'il faut en moyenne 7 mois pour mettre en route une grossesse, en sachant que si la femme a autour de 25 ans, ça va être de l'ordre de 4 à 5 mois. Si la femme a 35 ans, ça va être plutôt de l'ordre de 8 mois.
Donc, une différence de 3 mois seulement sur tant d'années.
Oui, c'est une moyenne, hein, bien sûr, en fonction des couples, en fonction du contexte, de tout un tas d'autres choses dont on va parler. La grossesse peut arriver le premier mois après l'arrêt de la pilule, ou le deuxième mois, et comme ça peut arriver au bout d'un an ou d'un an et demi, les chiffres que je donne sont des moyennes. Pour insister sur le fait qu'il ne faut surtout pas qu'un couple s'inquiète si la grossesse n'est pas arrivée au bout de 4 ou 5 mois, il suffit quelquefois d'attendre quelques mois de plus et de rester patient. Et aujourd'hui, avec les succès, la médiatisation de la procréation médicalement assistée, les femmes peuvent se considérer déjà trop vieilles vers 33 ou 34 ans et beaucoup de couples ont une confiance excessive dans les techniques de procréation médicalement assistée pour contrebalancer les effets de l'âge, alors qu'il suffirait quelquefois d'attendre quelques mois de plus simplement.
Oui, surtout quand on connaît le taux de réussite des PMA, oui. C'est alors, 20% à peu près.
Merci de poser cette question, Valérie. Justement, oui, c'est vrai que la PMA, ça ne veut pas dire une grossesse à coup sûr au bout de la première tentative. Le taux de succès est de 20% de grossesse par tentative de FIV ou en particulier.
Alors, nous reviendrons sur ces PMA tout à l'heure, Véronique. Anne, est-ce que l'instinct maternel est inhérent à toute femme en âge de procréer ?
Alors, c'est une question que je me suis posée et que donc, j'ai posée dans ma thèse. Donc, dans ma thèse, j'ai proposé aux patientes que j'ai vues tout au long de mon parcours de gynécologue, c'est-à-dire 36 ans, et je leur ai proposé de les voir pour essayer de faire un parallèle entre leur santé et leur vie, c'est-à-dire voir si on peut faire un lien, si nos maladies tombent sur nous au hasard ou pas. Et donc les infertilités également. Il faut rappeler que nous sommes les mammifères les moins féconds. Chez les chats, ça marche à tous les coups, chez les chiens pratiquement aussi. Et chez nous, comme vient de le rappeler Véronique, ça ne marche pas tout le temps. Pourquoi ? Qu'est-ce qui différencie le mammifère chien du mammifère homme ? Alors peut-être... c'est notre cortex, et notre cortex, c'est notre humanité. Et moi, je n'ai pas trouvé autre chose qui différenciait ces deux mammifères, du chien et de l'homme. Donc, je pense que cet instinct maternel mammifère primitif que sûrement nous avons, il est bousculé, il est parfois malmené, il est sûrement...
dérangé,
fracassé parfois.
Oui. Par des histoires de vie.
Voilà, par notre vie et notre réflexion personnelle qui fait que... voilà.
Pour vous, il y aurait une interaction entre le cerveau et le corps ou inversement ?
Alors,
oui. Véronique, je vous vois acquiescer.
Oui, mais je pense que Anne a une très jolie réponse.
Alors, donc, quel est l'impact de notre cerveau sur notre corps ? Je crois que personne ne nie que certaines émotions comme la peur ont un impact biologique. Quand on a peur, la peur a été une acquisition qui nous a fait nous protéger du danger, puisqu'elle nous prévient de ce danger. Quand on a peur, notre cerveau met en branle la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, qui sont faits pour mettre à disposition de notre corps le maximum d'oxygène et de glucose pour que nous puissions ou fuir ou nous défendre. Donc l'émotion peur a un impact biologique. Quand la peur est ponctuelle, on sait très bien ce qui se passe, et puis dès que la peur est partie, le corps se met en mode repos. La question que je me suis posée, c'est que deviennent ces émotions comme la peur, la colère, la haine, quand elles sont... au long cours, c'est-à-dire...
elle s'ancre dans le...
Voilà.
Dans le corps.
Dans le corps. C'est-à-dire que j'ai vu dans les entretiens que j'ai proposés aux femmes qui ont duré en moyenne 2 heures, entre 1 heure et 3 heures, j'ai compris que certaines femmes, enfin, ce sont des femmes que j'ai interrogées puisque je suis gynécologue, et que certaines femmes sont en colère depuis 10 ans, depuis 20 ans. Alors, voilà, la question c'est quel est l'impact de ces peurs, de ces colères sur notre corps. Et je pense que forcément il y en a.
Il y en a un. Alors justement, en vous écoutant, je me dis, j'ai oublié de présenter quelque chose de vous, Anne. C'est que dans votre thèse, vous avez rassemblé beaucoup d'observations sur le désir d'enfant ou le non-désir, sur l'hypofécondité et sur les issues possibles. Et que vous avez récolté beaucoup de confidences et de témoignages de femmes très éclairants. Voilà, sur leur histoire et ces témoignages, vous souhaitiez nous les faire partager.
Alors, quelques-uns des témoignages, puisque j'ai actuellement 400 dossiers. Je n'ai pas 400 dossiers d'infertilité, mais j'ai 400 dossiers de toutes les maladies confondues. Et pour les infertilités, je dois en avoir 60 à peu près. Donc, de femmes que j'ai revues. Alors, l'intérêt peut-être aussi, c'est de les avoir revues parfois des années après ces problèmes-là. Et elles avaient un regard... peut-être plus fécond que quand on est vraiment en difficulté. Alors, par exemple, une femme que j'ai appelée Turandotte, qui a 60 ans maintenant, qui a eu 10 ans d'infécondité qui n'a pas été expliquée, et elle a eu 6 fécondations in vitro qui n'ont pas marché. Et suite à ça, quand elle a eu 35 ans, elle a eu un enfant spontanément, un an après un autre enfant spontanément, et un troisième enfant est venu la quatrième année. Donc elle a eu trois grossesses spontanées après 10 ans d'infertilité et 6 fécondations in vitro. Et dans sa vie, elle explique qu'elle était, elle faisait partie d'une fratrie de 9 enfants, qu'elle était l'aînée, qu'elle s'est beaucoup occupée d'un de ses petits frères, et que ce petit frère s'est pendu quand il avait 11 ans. Elle devait se marier et son mariage a été différé à cause de ce décès. Par ailleurs, quand elle avait 11 ans, elle a été violée par son oncle à plusieurs reprises. Et elle dit, quand elle a 60 ans, elle dit en fait, de mettre un enfant au monde, c'était inconcevable pour moi. Le monde était trop difficile. Et les hasards de la vie ont fait, donc je lui ai demandé, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi les grossesses sont venues spontanément? Et elle explique que les hasards de la vie ont fait que, un jour, elle a eu un petit garçon qui avait été placé à la DAS pour maltraitance dans sa famille. Et elle l'a eu pendant 1 an avec son mari, elle s'en est occupée. Et ce petit garçon lui a donné, enfin, elle a pensé que son frère, par l'entremise de ce petit garçon, lui avait donné la permission d'avoir un enfant. Et elle s'était elle-même permise d'avoir un enfant. Mm-hmm. Elle explique ça comme ça.
Mm-hmm. Elle avait une sorte de légitimité pour devenir mère.
Exactement.
Suite,
exactement. Qu'elle n'avait pas
qu'elle
auparavant.
À cet enfant. Mm-hmm. Oui.
Oui.
Bah, sur cette belle histoire que vous nous racontez, oui. Anne, je propose une pause musicale. Et puis nous nous retrouverons à l'issue de ces quelques minutes.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie te tend, je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour, mais sur mes dessous, le sang revient comme toujours. Je me sens bien sale et je ferme ma gueule quand autour de moi toutes les cigognes frappent aux portes sans passer par là. J'ai envie d'hurler, j'ai envie de pleurer. Je m'accroche à ton cou. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'ils ont les autres de plus seuls que nous? Je me fous des discours, des mots qui rassurent, des professionnels. Connaissez-vous la peine d'une femme qui rêve d'être mère? La conne, je sais faire, la cuisinière aussi. La fille, je sais faire, la pute, je sais faire, mais pas donner la vie. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang. La vie dedans, je veux un enfant.
RCF.
Parents en question, aujourd'hui nous parlons du désir d'enfant, un enfant quand je veux. Nos invités sont Anne Gabart, qui est médecin gynécologue, et Véronique Bellec, qui est médecin généticien. Je crois que tout à l'heure vous vouliez rajouter quelque chose, Véronique, au sujet du temps pour concevoir un enfant.
Oui, alors c'est vrai qu'en tant que généticienne, je crois que c'est important que je rappelle des choses qu'on oublie souvent, c'est que, et qui explique ce délai de quelques mois pour mettre en route une grossesse, à savoir qu'un produit de fécondation, c'est-à-dire quand le spermatozoïde va féconder l'ovule, l'œuf fécondé, dans 3/4 des cas, et ça c'est la nature, c'est complètement naturel, dans 3/4 des cas, cet œuf est anormal sur le plan chromosomique ou génétique. Et la nature faisant bien les choses, cet œuf ne va pas s'implanter, ou bien il va être évacué très vite, avant même que la femme ait conscience qu'il n'y a même pas de retard de règles. Il n'y a pas de conscience.
L'œuf est fécondé.
voilà.
Mais finalement éliminés.
Ils s'éliminent naturellement. Mmh. Et donc c'est à peu près 3 sur 4 quand on a 25 ans. Bon, ce risque d'anomalie est plus important avec l'âge de la femme.
Parce que la qualité des ovaires, des
sûr.
Ovules, pardon.
Voilà, nous, les femmes, nous naissons avec notre stock d'ovocytes et ils vieillissent avec nous. Hein. Mais donc, ce qui explique qu'effectivement, à 35-38 ans, il y en aura un pourcentage un peu plus important qui risque de provoquer des anomalies.
Et le spermatozoïde, est-ce qu'il baisse aussi en qualité?
Alors, les études montrent que pour l'homme, il y a un décalage. C'est-à-dire que l'homme, c'est jusqu'à 40-45 ans, il n'y a pas de risque. Après 45 ans, bon, les biologistes de la reproduction estiment qu'effectivement, il peut y avoir une petite baisse de la qualité du sperme. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment tellement... que c'est vraiment un gros impact sur la fertilité de l'homme. Ce n'est pas ça qui va jouer le plus.
C'est surtout celle de la femme.
Oui. Nous ne sommes pas égaux, tout à fait dans ce cadre-là, en tout cas.
Il y avait une autre question, je crois, sur laquelle vous souhaitiez vous exprimer, Véronique. C'était sur l'interaction entre le corps et le psychisme.
Alors,
L'influence du cerveau sur le corps.
Oui, en particulier dans le cadre des peurs. Anne parlait tout à l'heure de la production d'adrénaline et de cortisol pour que nous puissions faire face à nos peurs. Alors, tu complètes, hein, si j'ai Anne. Et c'est vrai que cette fonction naturelle du corps à produire ces hormones pour faire face aux peurs, nous permettre d'accepter de vivre ces peurs, elle dévie nos fonctions hormonales au détriment de notre fonction de reproduction. C'est normal, si on veut faire face à une peur, eh bien, la première des choses, la priorité, ça ne va pas être de se reproduire à ce moment-là. Alors, on a très bien démontré ça dans le cadre des stress aigus, comme les guerres, les événements comme des tsunamis ou des tremblements de terre. C'est vrai que c'est plus difficile à démontrer dans le cadre des peurs chroniques qui s'installent, mais là, je crois qu'il y a des phénomènes épigénétiques, hein, dont on a déjà pu parler, qui vont s'imprimer autour de nos gènes et faire que il va y avoir des modifications de l'expression de nos gènes, et en particulier ceux qui vont rentrer dans le cadre de nos fonctions de reproduction.
Mmh. Oui, l'aménorrhée, enfin, l'absence de règles chez les femmes qui sont en prison en est un témoignage, quoi. C'est pas qu'elles le veulent, c'est pas conscient, mais donc il y a l'impact du cerveau, il est sur la reproduction, sur la biologie.
Oui, la peur va imprégner le gène.
Elle va modifier, elle peut modifier l'expression de nos gènes. Oui, maintenant, en termes d'épigénétique, c'est reconnu.
Ne pas céder à la peur, alors.
On ne peut rien y faire.
Non.
Allez. Non.
Je crois que c'est notre part Nous sommes des êtres rationnels et on est dans une civilisation où on privilégie beaucoup, à mon avis sûrement trop, la rationalité, c'est-à-dire qu'on veut tout maîtriser, on veut tout contrôler, sauf que on est aussi des êtres émotionnels et cette partie de nous-mêmes, elle n'a pas été assez acceptée, je crois. Or, la plus rationnelle des personnes, quand elle a une pensée qui l'obsède, même sa raison la plus intransigeante fera que cette pensée, malgré lui, malgré elle, reviendra sans arrêt. Et ça, ce sont nos émotions. Et je pense que dans les problèmes d'infertilité, on a trop rationalisé les choses. On veut maîtriser. Et donc, on veut maîtriser par la PMA. Et on n'a pas assez accepté nos émotions. Il faut les accepter, il faut les reconnaître. Et peut-être tout à l'heure, quand on va parler de ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut faire, on va en reparler, parce que c'est quelque chose qui est, à mon sens, très important.
Oui, Anne, vous pensez qu'aujourd'hui, la médecine, elle est prisonnière, finalement, d'une pensée rationnelle.
Oui, mécaniste, d'une pensée... où un et un font deux, où donc un spermatozoïde et un ovocyte doivent donner un embryon. Or, étrangement, c'est pas ce qui se passe en PMA. On a parfois un spermatozoïde qui est en état de fonctionnement, un ovocyte, et ça ne marche pas. Parce qu'on réfléchit en termes simplificateurs et pas en termes de complexité. Or, dans la complexité, un plus un ne font pas deux. Et en PMA, donc les résultats qui sont médiocres, on peut dire 20% à chaque cycle, c'est pas...
Ça vient bien prouver, en tout cas.
Absolument, que ça ne marche pas comme ça.
Ce qui montre que la fertilité provient des fonctions biologiques et psychiques de l'individu,
c'est
plus que de fonctions mécaniques.
Tout à fait, c'est mon avis, j'en suis convaincue. Après, c'est ce plongeon que j'ai fait dans ces 4 années, puisque ma thèse, je l'ai commencée il y a 4 ans, et j'y ai appris plus avec ces entretiens de patientes que ce que j'ai appris dans le reste de mon parcours médical.
Un ovaire de qualité médiocre, une glaire cervicale de qualité médiocre, et même un spermogramme pas forcément très élevé, pourrait donner un bébé si le psychisme
D'accord.
est plus épanoui, enfin est d'accord. En fait,
et d'accord. Ouais. Alors, moi je pense que, justement, tout à l'heure je parlais des êtres rationnels et des êtres émotionnels. Dans les patientes que l'on voit et qui peuvent s'inscrire en PMA, je pense qu'il y a des femmes au fond d'elles-mêmes qui ne veulent pas d'enfants, et je vais vous raconter, si vous le voulez, quelques histoires dans ce sens-là. Et puis il y a surtout des femmes qui veulent bien un enfant, mais qui sont un petit peu corsetées par certaines peurs et certaines émotions. Or, dans notre rationalité et notre logique, soit une femme veut un enfant, soit elle n'en veut pas. Et une femme qui est inscrite en PMA, elle veut forcément un enfant. Or, je pense que c'est pas toujours vrai. Et c'est pas toujours vrai, et ça, il faut l'accepter, parce que nous sommes tous quelque chose et son contraire. Nous avons tous fait dans notre vie, enfin je crois, enfin moi en tout cas, des choses avec lesquelles on n'était pas profondément d'accord. Et ça, je pense que les couples qui sont dans ces protocoles et dans ces... doivent se penser sur cette question-là. Est-ce qu'au fond, nous, vraiment, on veut un enfant? Et puis, si on veut un enfant, est-ce qu'on veut à 100% un enfant? C'est-à-dire que souvent, dans mes entretiens, j'ai trouvé des femmes qui, certes, voulaient un enfant, mais il y avait une partie d'elles-mêmes qui était corsetée par... souvent, c'est des peurs, ce sont des peurs. Alors, la peur de reproduire la maltraitance quand elles ont été maltraitées, la peur de ne pas aimer l'enfant, la peur... de ne pas être une bonne maman, la peur d'un accouchement. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle était terrorisée à l'idée d'accoucher. Donc, si elle est enceinte un jour, il faudra bien qu'elle accouche. Parce que quand elle avait 7 ans, elle avait entendu sa mère qui parlait de l'accouchement de sa propre mère et qui avait été attachée sur la table de la cuisine pour pouvoir accoucher. Et donc, dans sa vision d'enfant, elle était terrorisée par ça. Alors, ce sont des émotions, on peut dire, mais c'est ridicule, maintenant, ça ne se passe pas comme ça. C'est ridicule, c'est pas ridicule. Toutes nos émotions sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire, on n'a pas à les juger, on a à les accepter. Et peut-être parler de ces émotions, que cette femme ait pu parler de sa peur, l'exprimer, à ce moment-là, peut-être quelqu'un d'autre peut la rassurer. Ou on a d'autres moyens aussi, dont on parlera peut-être tout à l'heure, pour agir sur nos émotions. Juste rajouter quelque chose par rapport aux émotions qui me paraît aussi très important. Maintenant, en deuxième partie de cette thèse et de mes entretiens, j'ai demandé aux femmes, puisque moi j'ai vu des femmes, quel était le pourcentage d'elles-mêmes qui voulaient à 100% un bébé, et puis la partie d'elles qui était plus réservée, souvent à cause de ses peurs. Et j'ai été parfois stupéfaite de voir que ça pouvait être 50-50. C'est-à-dire que je veux un enfant, il y a 50% partie de moi qui veut un enfant, et puis un peu d'autres qui... Enfin, un peu d'autres là, c'était 50%. Ça peut être 10%, ça peut être... Mais qui retient, qui met un frein, quoi, sur le projet.
Et c'est une souffrance pour ces femmes, justement, de ne pas enfanter?
Alors, c'est sûrement une souffrance, parce qu'il y a une partie d'elle-même qui veut un enfant, mais réfléchir aux peurs qui parfois les inhibe, justement, ça peut ouvrir la possibilité de les diminuer. Quelquefois, seulement de les exprimer, ça suffit à diminuer, ou les faire prendre en compte par quelqu'un d'autre.
Anne, vous êtes intarissable, mais Véronique, vous qui accompagnez ces couples aussi en difficulté de procréation, qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à ce que vient dire Dan?
Je voudrais dire qu'effectivement, je crois qu'il est essentiel de permettre aux couples d'exprimer leur peur, ce qui est très très difficile pour eux dans un, déjà lors d'un premier entretien, parce que ils arrivent avec une d'obligation de perfection au départ dans leur tête. J'ai souvent ces couples donc qui viennent à 38 ans après avoir tout réussi dans leur vie. Leur métier, ils ont une belle maison, ils ont le partenaire idéal et ça y est, ils essayent d'avoir un enfant et au bout de 6 mois, c'est pas là. Alors là, ils arrivent
démunis.
Et donc, de pouvoir leur permettre, c'est très compliqué de pouvoir leur permettre de commencer à exprimer des peurs, parce que ça ne doit pas faire partie de leur vie, normalement.
Ils n'en ont même pas conscience.
C'est acceptable, oui.
C'est vraiment les faire accéder à quelque chose auquel qui leur est complètement étranger.
Oui, oui. Et donc, l'essentiel, je pense, de l'accompagnement, c'est de leur offrir un espace d'expression et de prendre du temps pour ça. Et puis, de les aiguiller. Voilà, évidemment, avec l'expérience, on a quelques idées sur les peurs possibles, et en leur faisant parler de leur histoire familiale. Mais c'est vrai que je crois que Anne a de belles histoires à nous raconter justement sur ce sujet-là. Je voudrais lui laisser la parole.
Peut-être celle d'Athénaïs finalement j'ai eu du bol que les fives ne marchent pas.
Voilà. En fait, c'est une jeune femme qui a maintenant 41 ans. L'infécondité n'a pas été expliquée. Elle a eu 6 inséminations qui n'ont pas fonctionné, 4 fécondations in vitro qui n'ont pas fonctionné non plus. Et en fait, son histoire est qu'elle a été mal aimée ou elle n'a pas senti l'amour de sa mère. Elle dit « je ne connais pas l'amour maternel ». Et elle dit « je n'étais pas prête à avoir un enfant, je n'ai jamais ressenti ce désir-là. J'ai voulu faire plaisir à mon mari qui, lui, voulait un enfant. Mon mari avait un frère qui est mort, donc si on n'avait pas d'enfant, il n'y aurait pas d'enfant dans la famille ». Mais en fait, elle dit « je savais que ça n'allait pas marcher ». Et de ces choses-là, on n'ose pas parler au médecin qui, de toute façon, n'autorise pas à dire des choses comme cela. J'ai eu très peur de reproduire ce qu'a été ma mère et surtout de ne pas aimer l'enfant. Et elle dit, à la fin de l'entretien, elle a dit « je suis bien contente de ne pas avoir d'enfant. Un bébé aurait été un fardeau, une contrainte plus qu'une joie. Moi, j'ai eu du bol. Les filles vont pas marcher. » Donc... faut que les médecins y fassent de la place à ces interrogations, ces peurs, ces émotions, et que les femmes le sachent, que toute émotion a sa raison d'être, que nous, on n'a pas à juger les émotions des patientes, que si elles disent « j'ai peur pour si », mais il faut le respecter et pas hausser les épaules en disant « mais il faut pas avoir peur, c'est un fait, on doit se faire avec... avec ce que sont nos patientes. Ce n'est pas à nos patientes de s'accommoder de nos pensées et de notre réflexion. Donc, ça me paraît très important. Bon, si vous voulez d'autres histoires, j'en ai plein.
Je pense que si Athénaïs avait pu être écoutée, entendue, si elle avait vraiment pu exprimer ses peurs, elle aurait pu passer par-dessus et peut-être avoir un enfant.
Elle aurait pu ne pas avoir de fécondation in vitro et donc il n'y aurait pas eu un échec de fécondation in vitro. En fait, elle dit, moi j'aurais voulu qu'on me dise que je ne pouvais pas avoir d'enfant, c'était ça. En fait, je crois qu'elle, elle n'en veut pas, elle n'en veut pas.
Donc elle a été entraînée dans un processus pas forcément anodin et qui ne lui a pas convenu.
Et avec lequel elle n'était pas d'accord.
Son choix profond n'a pas été respecté, c'est ça que vous voulez dire.
Voilà, et c'est qu'on ne lui a pas demandé en fait, personne ne lui a demandé.
Sur cette seconde histoire d'Anne, eh bien, je vous propose une nouvelle pause musicale.
Longtemps j'ai cru que la marmaille, j'en voudrais jamais pour mes gens, que j'endurerais jamais que ça braille, même en punition dans une chambre. Longtemps j'ai cru que la marmaille, y avait des filles faites pour ça, et qu'elles méritaient des médailles et j'étais pas de ces filles-là. Mais d'où me vient cette envie folle? Mais d'où me sortent ces idées-là? Cette passion des cours d'école, cet attendrissement que voilà. Je m'émeus devant les femmes enceintes qui magasinent les berceaux, qui ont les seins gros comme ma crainte d'avoir toute la marmaille à dos. Toutes mes certitudes s'écroulent, je veux de la marmaille. À moi je veux coucher les petites nids qui coulent, je veux mettre ça en pyjama. Je veux que ça crie, je veux que ça saute, que ça brise des matelas. Et je veux que ça salisse des chaises hautes, je veux de la marmaille à moi. Mais la marmaille, je croyais que ça n'aimait pas la face, que ça priait pour que je m'en aille. Quand j'arrivais dans leur espace, longtemps j'ai cru que la marmaille, j'en aurais jamais sur les bras, que j'avais ni le cœur ni les entrailles assez solide pour porter ça. Je m'émeus devant les femmes enceintes qui magasinent les berceaux, qui ont les seins gros comme ma crainte d'avoir toute la marmaille à dos. Toutes mes certitudes s'écroulent, je veux de la marmaille à moi, je veux moucher les petites nids qui coulent, je veux mettre et je veux que ça salisse des chaises hautes, je veux de la marmaille. À moi, je veux nettoyer les genoux qui saignent, je veux de la marmaille. À moi, je veux que ça bouille, je veux que ça se plaigne, je veux emmener ça au cinéma. Je veux ressusciter le Père Noël, je veux que ça y croit. Je veux que ça attrape la varicelle, je veux de la marmaille. À moi, mon univers a basculé, je veux de la marmaille. À moi. Et c'est depuis que t'es arrivé que je veux de la marmaille. Je veux de la marmaille de toi.
RCF, parents en question.
Oui, le thème du jour, c'est « Un enfant quand je veux ». Nos invités sont Véronique Bellec et Anne Gabart, toutes deux médecins, l'une généticienne et l'autre gynécologue. Pour une reproduction, qu'est-ce qui est nécessaire, Anne? Il faut être à la fois prêt à transmettre ses gènes et se projeter dans l'avenir en assurant une éducation aux enfants.
Oui. Alors, peut-être à la différence encore des autres mammifères, avoir une descendance, c'est transmettre ses gènes, mais il faut pouvoir les projeter, oui, dans l'avenir. C'est-à-dire que un bébé, il a un devenir. Un bébé n'est pas une unité immobile. Un bébé aura un devenir. Donc, il faut lui transmettre en plus de nos gènes notre humanité. C'est-à-dire que pendant l'être humain et le mammifère qui a le besoin d'une enfance la plus longue. C'est-à-dire qu'on doit lui apprendre la bipédie, et il faut au moins une année pour ça. On doit lui apprendre le langage et on doit lui apprendre notre humanité. Et donc ce que les autres mammifères n'ont pas à faire. Donc quand on décide de faire un enfant, il faut qu'on puisse se projeter normalement, théoriquement, dans les 20 années qui suivent.
Et se séparer de son histoire familiale si elle était douloureuse.
Et se séparer de ça.
Peut-être que vous pouvez donner un exemple avec l'histoire d'Esperanza, qui dit à la fin, elle, j'aurais juste aimé qu'on me dise que ce n'était pas nécessaire de reproduire le schéma familial.
Voilà. Donc, c'est une jeune femme qui a eu un petit peu de mal pour avoir un enfant. Elle a eu néanmoins une fausse couche si tôt qu'elle a été mariée. Donc elle a été enceinte spontanément, elle a fait une fausse couche et ensuite elle a eu 14 cycles stimulés pour pouvoir avoir une grossesse. Grossesse de jumeaux et grossesse qui s'est très mal passée puisque elle a vomi pendant pas mal de temps, elle a eu mal à l'estomac, elle a eu des contractions, elle a saigné, elle a eu une infection urinaire et elle a fait une éclampsie à la fin de cette grossesse. Et elle raconte, cette jeune femme a eu une enfance difficile puisqu'elle a été placée quand elle avait 2 ans pour maltraitance. Et elle raconte, maintenant avec le recul, c'est clair pour moi cette difficulté à être enceinte. Quand j'ai arrêté la pilule, j'avais peur. J'avais lu que souvent les adultes reproduisaient leur enfance. Et chaque mois j'étais déchirée entre mon profond désir d'être maman et de prouver que je pourrais le faire, et bien, et ma terreur d'être enceinte et de ne pas être une bonne maman, de reproduire la maltraitance. Ma grossesse n'a pas calmé mes peurs, bien au contraire. Elle s'est mal passée, comme je viens de vous l'expliquer. Et elle m'a dit à la fin de l'entretien, j'aurais juste aimé qu'on me dise que ce n'était pas obligatoire de reproduire le schéma de l'enfance.
Et là, vous soulignez dans cette histoire que les médecins ont peu écouté ce qu'elle avait à dire.
Les médecins n'ont posé aucune question sur sa vie.
Véronique.
Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est vrai que dans les couples que je reçois, beaucoup de femmes en particulier arrivent en disant, de toute façon, je savais qu'il y aurait des difficultés pour mettre en route à la grossesse parce que pour ma mère, ça a été très difficile. Ma mère a mis 4 ans ou ma mère a mis 6 ans ou ma mère a fait 2 fausses couches avant de réussir à avoir son premier enfant. Et donc, c'est imprimé en elle que... Et c'est de pouvoir les aider à déposer ça et à prendre conscience que c'est pas génétique, qu'elles sont différentes de leur mère et qu'elles ne sont pas obligées de reproduire ce schéma maternel, ça les aide. C'est comme s'il y avait une forme de loyauté, c'est-à-dire la question à poser c'est est-ce que je m'autorise à faire mieux que ma mère, à pouvoir enfanter plus vite que ma mère sans difficulté alors que ça a imprégné la vie de ma mère pendant X années. Je pense que c'est vraiment un schéma qui se reproduit souvent.
Et le fait que la femme en prenne conscience, ça l'aide ?
Oui, et le fait de lui montrer, enfin de l'amener à prendre conscience qu'elle n'est pas sa mère, qu'elle a un autre patrimoine, une individualité, une fonction de vie et de reproduction qui est différente et qui, ça l'aide.
C'est tout un travail de différenciation qu'elle doit faire.
D'individuation, tout à fait.
Parents en question, Valérie Gendreau.
Une autre histoire, Anne, peut-être celle d'Andromaque ?
Oui, alors d'Andromaque qui a maintenant 38 ans, infécondité inexpliquée et échec de PMA, elle a eu 3 IAC, 3 tentatives de FIV qui n'ont pas marché puisque on n'a pas réussi à la stimuler et donc là elle est candidate pour un don d'ovocytes. Sa vie... Elle m'a dit pendant l'entretien, je suis enfant unique. Et puis après, elle est revenue dessus, elle m'a dit, non, en fait, je ne suis pas enfant unique parce que ma mère a eu un premier enfant, un garçon, qui est mort à la naissance. 1 an après, elle a eu un autre enfant qui est mort à la naissance. 2 ans après, elle a eu une grossesse gémellaire et elle a accouché à 6 mois. Les enfants sont morts aussi à la naissance. Donc depuis que j'ai arrêté la pilule, je suis terrorisée. Je suis terrorisée de l'accouchement, de cette éventualité de perte d'un enfant. Et elle dit, j'ai réussi à en parler de ces décès de ma mère au médecin qui s'occupe de la PMA, ce qui est très difficile pour moi, parce que je n'en parle jamais. Mais il n'en a pas pris cas, ne m'a posé aucune question et n'a pas pris la balle au bond. J'ai pensé que ce n'était pas important. Pourtant, j'aurais aimé qu'il me pose des questions. Et elle dit... Peut-être j'ai un blocage pour une grossesse car mes peurs, j'y pense tout le temps et je n'en parle jamais. À qui je pourrais en parler ? Personne ne me le propose. Voilà, donc je pense que peut-être les médecins ont des progrès à faire par rapport à ça.
Véronique, vous pensez que si cette femme avait pu exprimer toutes ses peurs ?
Oui, mais malheureusement, c'est vrai que nous avons pu vivre ça aussi dans nos études de médecine et je pense pas que c'est beaucoup, beaucoup évolué. Il n'y a pas grand-chose qui prépare les médecins à pouvoir accueillir les émotions de leurs patients et à pouvoir... ça nécessite d'abord de travailler sur soi pour comprendre ses propres émotions, ses propres peurs, ne pas projeter. Enfin, c'est tout un travail que font les psychothérapeutes avant de recevoir des patients. Mais nous, médecins, c'est... Et c'est pas ce qu'on nous apprend. On nous apprend à utiliser des techniques de diagnostic, à utiliser des techniques thérapeutiques, point. Et pas écouter les patients. Et c'est vrai que ça prend du temps d'écouter les patients. Ah bah oui.
Ça prend du temps. Enfin, un parcours de PMA, ça prend aussi du temps.
Oui.
Oui.
Et ça ne laisse pas les femmes indemnes non plus.
Je crois qu'effectivement, les femmes ne mesurent pas, les couples ne mesurent pas combien ça peut être difficile, ces parcours où leur corps peut être relativement malmené.
Alors, on peut choisir un cas extrême qui est celui de Norma,
oui,
qui a dit « j'ai failli mourir lors d'une ponction d'ovocyte ».
Absolument. Elle a maintenant 63 ans, cette femme, et elle a un regard sur son infécondité qui est un peu impressionnant, je trouve. Donc, en fait, elle n'a pas eu d'enfant. Son infécondité a été comprise puisque son mari n'avait pas de spermatozoïdes. Il avait eu une leucémie et avait été traité. Donc, il n'avait pas de spermatozoïdes. Par contre, ce qui n'a pas été compris, c'est pourquoi les inséminations qui lui ont été faites avec le sperme de son mari qui avait été congelé préalablement à la chimiothérapie et qui avait bien réagi à la congélation. Et donc ça n'a pas marché. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Et elle, donc, lors d'une ponction d'ovocyte, elle a eu une hémorragie, elle a été transfusée, ça a été assez grave pour elle. Et elle explique, je vois plusieurs raisons à cet échec. D'abord, la maladie de mon mari qui m'a traumatisée. Il m'était impossible de me projeter dans l'avenir et a fortiori, je ne pouvais pas projeter un enfant. Ensuite, parce que, maintenant je le sais, je ne voulais pas m'inscrire dans la filiation de ma belle famille, je ne voulais pas engendrer dans cette famille, je ne voulais pas mêler mon patrimoine génétique au leur. Et je suis bien contente de ne pas l'avoir fait. Un enfant n'est pas isolé, il est un maillon dans la chaîne de la filiation. L'histoire de l'enfant a été étouffée dans l'œuf, la notion de plaisir avait disparu avec la maladie de mon mari. Un enfant doit se concevoir dans la joie, la communion, le projet. Je n'étais pas prête à faire autrement. Et l'univers médical m'a sidérée. Tous ces traitements sont une véritable intrusion dans l'intime, une vraie souffrance. Faire un enfant dans la souffrance était pour moi inacceptable.
C'est terrible ce que vous lisez, Anne.
Oui. Mmh. Oui, je pense que notre parcours de médecin devrait échapper à cette prison dans laquelle on est, dans laquelle Descartes nous a mises, où on sépare le corps et l'esprit. Et on est encore dans ce schéma, enfin, je ne sais pas si Véronique me contredira, je ne saurai pas. Et donc, on pense que le schéma reproducteur, notre appareil reproducteur, il fonctionne sans cortex. Et d'ailleurs, étrangement, ça c'est peut-être pour les médecins, mais dans les schémas où on marque l'hypophyse, l'hypothalamus, l'ovaire, enfin tout ce schéma fonctionnel, mais bien souvent, j'ai repris ça depuis que je me suis penchée sur cette thèse, et bien souvent, il n'y a pas de cortex. C'est-à-dire qu'on a un appareil reproducteur qui est déconnecté de notre cortex, donc de notre humanité, notre psychisme, notre mental. Et c'est pour ça que les médecins, ils ont parfois du mal. Enfin, j'ai remis en question... toute une partie de mon exercice où justement j'ai déconnecté cet appareil reproducteur du cortex. Voilà. Donc je pense qu'il faut repenser peut-être...
Repenser autrement les études de médecine pour la gynécologie.
C'est une invitation. Oui.
Pas seulement pour la gynécologie.
Non.
RCF, parents en question.
Au regard de toutes ces histoires, comment peut-on accompagner au mieux ces femmes? Donc vous avez parlé de l'écoute, hein, qu'il puisse y avoir une expression des peurs, et puis une prise de conscience. Anne, vous avez aussi une histoire qui pourrait illustrer cette prise de conscience, celle de Céleste.
Oui. Alors, Céleste est une femme qui a maintenant 38 ans, qui donc une infertilité inexpliquée. Elle a eu 4 inséminations artificielles qui n'ont pas marché. Et la première fille va entraîner une grossesse. Elle a eu un enfant. Bon, on était contents. Sauf que 2 ans après, elle a eu une grossesse spontanée, sans l'aide de la PMA. Et elle explique que son papa était un navigateur, donc il était très absent, que sa maman a endossé la responsabilité d'élever ses trois filles, puisque c'est une fratrie de trois. Et elle dit, son statut de mère responsable lui a fait perdre son statut de femme. Moi, j'ai l'explication. Je sais pourquoi la grossesse n'est pas venue au début. Je n'étais pas prête. J'avais peur de devenir mère. J'avais peur de la grossesse, de l'accouchement, de ne pas savoir m'occuper du bébé. Lors de ce parcours de PMA, on ne m'a jamais posé les bonnes questions. J'aurais juste voulu parler de mes peurs, être rassurée, encadrée. On n'a pas pris en charge ce qui posait problème. Pour moi, c'est sûr et certain, j'aurais pu être enceinte sans la FIV. Il suffisait juste de débloquer les peurs qui étaient au fond de moi. J'avais peur d'abîmer la femme en devenant mère. Et elle a rajouté, je voudrais rajouter que j'ai été écœurée de tout l'argent gaspillé pendant la PMA, toutes les ampoules de traitement inducteur qui coûtent si cher, non utilisées, et que la pharmacie ne voulait pas reprendre.
Donc pour sa seconde grossesse, elle s'est passée, elle s'est dispensée de la PMA.
Absolument. Parce que elle dit, c'est elle qui le dit, elle dit, j'avais plus peur. Et donc là, elle s'est étonnée, elle m'a dit, mais je suis étonnée de la façon dont, en fait c'est facile de faire un enfant. Parce qu'elle avait pris conscience de ses peurs. Le fait d'avoir un enfant l'avait réconciliée. Elle n'avait plus peur. Hein.
Elle a lâché ses peurs.
Voilà, elle a lâché ses peurs.
Alors, il y a aussi des techniques qui permettent de lâcher ses peurs, au-delà de l'écoute et de la prise de conscience.
Tout à fait.
Quand le blocage est très fort, très profond.
Oui.
C'est quoi ? Ce sont des techniques de psychotraumatologie, c'est ça,
oui.
Anne ?
Enfin, dans lesquelles, je pense, on peut... qu'on peut essayer. Hein. Donc, on a bien dit, Véronique et moi, que la première chose était l'écoute, la réception de ses peurs. Ensuite, la prise de conscience elle-même de la façon dont ses peurs peuvent peut-être les empêcher d'être à 100% dans ce désir de grossesse. Le fait de mettre des pourcentages, ça leur fait prendre cette conscience et qui peut les aider. Et puis après, peut-être essayer de gérer ses peurs. Alors, on a maintenant avec les techniques de psychotraumatologie, l'hypnose par exemple, et le MDR. Alors, le MDR, c'est une technique avec les yeux, là, qui s'appelle Eyes Movement Reprocessing. Donc, c'est une technique de psychotraumatologie où on va pas changer notre vie, c'est-à-dire on va pas changer le fait d'avoir eu une mère violente ou quelque chose comme ça. Mais on peut changer la réception qu'on en a, donc le vécu que l'on a de ça, et donc diminuer les peurs.
Grâce à ces techniques.
J'ai une patiente qui a eu l'endométriose, une endométriose extrêmement sévère, et donc dans sa vie, elle a été abusée quand elle avait 9 ans, et l'abuseur, en plus de l'avoir abusée elle-même, se servait d'elle pour qu'elle rabatte ses copines, pour qu'il viole ses copines aussi. Ça a duré 3 ans. Elle dit, tous les jours de ma vie, tous les soirs, et je dis bien tous les soirs, je me suis endormie avec ces visions d'horreur dans ma tête. Donc elle s'est droguée, elle a fait pas mal de choses difficiles comme ça. Et elle a eu des séances de MDR et elle dit, le MDR c'est stupéfiant. Toute ma vie je me suis dit, mais je voudrais une bonne petite lobotomie pour m'enlever tous ces trucs pourris de mon enfance. Eh bien le MDR c'est comme si on m'avait lobotomisé le cerveau. Toutes ces visions que j'avais le soir, tous les soirs en m'endormant, elles se sont éloignées de moi. Et donc elle dit, je me drogue plus depuis que j'ai fait de l'EMDR, je me reconnais plus et je n'ai plus mal au ventre. Enfin, elle avait plus mal au ventre, cette endométriose là qui lui avait donné ses douleurs dans le ventre pendant 25 ans de sa vie. Donc moi je pense qu'il y a certaines techniques sur lesquelles on doit se pencher. Enfin, sûrement qu'elles peuvent pas tout résoudre, mais
elles aident.
Elles peuvent aider. Enfin, il faut les mettre entre les mains de. Faut pas faire n'importe quoi. Faut savoir quelles sont nos peurs, comment on peut les gérer. Enfin, faut des gens habilités à le faire et des gens compétents.
Vous confirmez, Véronique aussi.
C'est vrai que je vois les réussites parmi les couples que je suis. Ceux qui finissent par mettre en route leur bébé spontanément ou à lever les blocages qui les empêchent de, dans les succès de parcours de PMA, sont ceux qui s'adressent à souvent plusieurs techniques, c'est-à-dire ils vont prendre soin d'eux, prendre le temps, des temps de recul, de pouvoir utiliser l'hypnose ou effectivement des techniques de thérapie rapide comme le MDR ou l'acupuncture, enfin souvent c'est et de pouvoir pour chacun des couples ou chacune des personnes sentir vers quelle technique elle a envie de s'orienter. Oui. Est-ce que ça va être plutôt tiens moi j'ai envie de tenter l'hypnose effectivement comme disait Anne entre les mains de personnes expérimentées ou moi j'aurais envie d'aller plutôt voir un psychothérapeute plus traditionnel ou voilà, je crois qu'il faut pas se forcer mais s'orienter vers ce vers quoi on a envie d'aller.
Oui, là encore respecter le choix de chacun.
Tout à fait.
Et savoir ce qui lui convient le mieux.
Oui.
Alors au terme de ce travail que vous avez fourni, Anne, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ce travail vous a apporté pour vous personnellement?
Ce travail m'a apporté beaucoup. Il m'a apporté le sens. Je pense que nos maladies ont du sens au sein de notre vie, qu'on peut les intégrer. Enfin, que tous les entretiens m'ont, enfin la plupart des entretiens m'ont permis de le penser en tout cas. Que si notre santé a du sens, probablement que notre vie en a un. Donc, il m'a apporté quelques suggestions. Ce ne sont des réponses à des questions fondamentales et de respecter la singularité de chacun. Je pense que ça, c'est aussi très important. Et en technique, dans ces problèmes d'infertilité, ce regard de la singularité est, à mon avis, important. Et que les femmes et les patients se respectent, respectent leurs émotions, surtout respectez vos émotions, acceptez-les. On a le droit d'avoir peur, on a le droit. Et les émotions qui, pour certains, sont des choses très difficiles, pour d'autres, vont paraître dérisoires, mais c'est chacun. Il faut recevoir nos émotions et ne pas les juger.
C'est un regard d'espérance que vous portez sur l'homme?
Absolument.
Oui.
Oui, absolument. Je pense qu'on n'est pas. Et à loin près, on ne sait pas de quoi on est capable. Et je pense que le connais-toi toi-même. De Socrate et tu connaîtras le monde et les dieux. Je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Si dans les performances matérielles et techniques, notre PMA, c'est magnifique, on a réussi à se reproduire hors, à transgresser des lois fondamentales, puisqu'on réussit à se reproduire hors rapport sexuel. Mmh. C'est magnifique. Mais peut-être ce qu'on a à travailler, nous, médecins, c'est la façon de les utiliser et de les utiliser au mieux, de les mettre bien où elles doivent être. Puisque la plupart du temps, enfin dans les dossiers que je vous ai relatés, on n'a pas compris ce qui se passait, quoi. On n'a pas compris pourquoi elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. On n'a pas compris pourquoi notre PMA, elle ne marche pas. Et de chercher le sens, ça pourrait être une ligne rouge pour nous, les médecins, et pour les patients aussi, de chercher le sens, oui.
Voilà. De la vie.
De la vie. Enfin, de la vie et donc de ce qui nous concernait là aujourd'hui, l'infertilité.
Donc voilà. Ces techniques sont formidables et magnifiques, comme vous l'avez dit, mais insuffisantes.
Je pense qu'on peut en tirer beaucoup plus, même si on reconnaît leur...
Insuffisantes si on perd le sens.
Oui, c'est exactement ça. Insuffisantes si on perd le sens. Mmh. Et en fait... Nous humains, on est des machines à faire le sens, quoi. Je sais plus quel philosophe disait quand je verrai des singes se réunir autour d'une table et discuter de leur vie, à ce moment-là, je penserai que ils sont comme nous. Mais tant qu'on n'aura pas vu ça,
on n'est peut-être pas prêt de le voir.
Ben, je ne sais pas. Oui. Mais nous, en tout cas, c'est primordial pour nous le sens.
Merci Anne, Véronique. Et vous, qu'est-ce que tout cet accompagnement de couple vient changer pour vous personnellement?
Beaucoup de choses, c'est immense. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, on a beaucoup parlé des peurs et des émotions, et je pense effectivement, et dans mon travail, c'est vraiment essentiel d'aller toucher ça. Il y a quelque chose au-delà de ça, parce que effectivement c'est fondamental chez nous, mais au-delà, je pense que ce que j'observe parmi les couples que je reçois, c'est une perte de confiance dans les processus naturels de la vie, tout simplement, puisque la plupart sont dans une hyper maîtrise, et le rythme effréné de la vie dans lequel, ça m'effraie vraiment, hein, le rythme effréné dans lequel ils sont, les compétitions dans lesquelles ils se mettent, les barres très hautes qu'ils veulent atteindre, les empêchent les déconnectent de leur corps et de tout ce qui est naturel. Or, la vie est un processus naturel, il y a une forme de magie, on ne peut pas tout, malgré la médicalisation, les techniques, on ne peut pas tout maîtriser. C'est impossible. Et donc, juste de toucher que ça peut se passer bien plus simplement.
Sans souci de performance.
Sans souci de performance. Et juste accepter que ça ne va peut-être pas marcher tout de suite, mais qu'il suffira de quelques mois de plus, peut-être. Souvent.
Oui. Je voudrais juste acquiescer à ce que dit Véronique. Faire confiance à la nature. La plupart des couples ont le pouvoir d'avoir un enfant seul, enfin sans l'aide de la
PMA.
Voilà, sans l'aide de la PMA. Faire confiance en la nature.
Oui, faire confiance au patrimoine naturel.
Oui, oui.
Et en nos propres ressources.
Oui.
Je pense que ce sera le mot de la fin, Véronique. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir partagé votre travail et puis vos témoignages de vie.
J'ai à cœur de remercier Anne d'être venue de la Baule pour venir nous offrir ce travail, nous faire partager ce travail extrêmement précieux. C'est une mine d'or, les témoignages de ces patientes nous apportent énormément. Donc merci d'être venue et pour ton travail.
Oui. Merci est reçu, et moi je voudrais vous remercier aussi, puisque c'est par Véronique que j'ai pu venir ici, d'apporter ces témoignages qui concrétisent la fin de ma carrière. Et enfin, pour moi, ce travail est extrêmement important. Voilà. Et donc je voudrais vous remercier de m'avoir donné cette opportunité, de l'avoir partagé.
Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés avec fidélité, et puis à une prochaine fois.